Ok oui, 10h01, bienvenue dans le Point de Max. À Boulevard 102.1, on passe les deux prochaines heures ensemble. Et ça risque de bouger, parce qu'à 14h, le premier ministre du Québec, François Legault, va officiellement faire ses annonces qu'on attend pour ce qui est du remaniement ministériel. Mais sans surprise, l'essentiel de ce remaniement-là, ben, on le connaît déjà. Plusieurs informations qui étaient sorties quand on s'est réveillé ce matin. Là, le Journal de Québec, entre autres, qui a fait un solide travail. Et dans les dernières heures, La Presse, Radio-Canada, le Journal de Québec, TVA, tout ça, ben, se relaie avec différentes infos. Puis en bout de ligne, après ça, ben, tu prends ces infos-là, tu mets tout ensemble et il y a moyen de faire un portrait assez complet de ce qui va être annoncé par François Legault à 14h cet après-midi. Vous pourrez d'ailleurs écouter la gang de Gravel dans le retour des 14h qui va suivre ça en direct avec vous parce que, oui, on connaît les informations à savoir quel ministre va aller à quel endroit, mais encore quand même quelques points d'interrogation au niveau, entre autres, de certains ministères. À la base, il y a encore des ministres qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont se retrouver. Je pense à Simon-Jolin Barrette, à moins que ça ait changé dans les dernières secondes. Simon-Jolin Barrette, on ne sait pas. Il va se retrouver à la tête de quel ministère, alors que c'est un gars qui a pris énormément de galons au sein de la coalition Avenir Québec dans les dernières années. Simon-Jolin Barrette, c'est un gars qui connaît ses dossiers. Je serais pas surpris qu'éventuellement ce gars-là soit un chef de parti important au Québec. Est-ce que ce sera un chef de la coalition Avenir Québec? Peut-être si elle ne meurt pas. Je sais que Marceau aime bien dire que François Legault va quitter la tête de la CAQ en décembre, puis qu'ensuite, ben, dans la course à la chefferie, il y aura sans doute un Simon-Jolin Barrette. Bernard Drainville devrait s'essayer aussi. Et aussi dans les informations qu'on n'a pas encore par rapport au remaniement ministériel, c'est qui va occuper le poste de vice-premier ministre ou de vice-première ministre? Parce que ce qui se jasait, ben, c'était pas mal le nom de Sonia Lebel qui revenait. Mais du côté d'LCN ce matin, il y a Stéphanie Touga, qui est une analyste politique, qui a mentionné que le poste de vice-premier ministre ou vice-première ministre pourrait rester vacant, fait qu'il pourrait ne pas y en avoir de vice-première ministre ou de vice-premier ministre. Puis à ce moment-là, ben, on se demande un peu pourquoi. Et où la stratégie là-dedans? C'est-tu pour ne pas donner avantage à quelqu'un en vue d'une course à la chefferie de la coalition Avenir Québec dans les prochains mois? On dirait que c'est comme la seule logique que je vois derrière ça. C'est-tu de pas donner un bonbon à quelqu'un, puis que là, ça fasse de la jalousie, puis que là, il y en a qui soient pas contents? Il y a peut-être un peu de ça aussi, mais dans tous les cas, on va aborder toutes ces questions-là qu'on a dans quoi une dizaine de minutes avec Thierry Giasson. Il est spécialiste de la communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval. On va se jaser de ce remaniement ministériel. Puis oui, il y a le remaniement en tant que tel. Qui va aller où? Mais François Legault va aussi prendre la parole à 14h et nous enligner vers où s'en va la CAQ dans la prochaine année, avant les prochaines élections générales, va donner ses grandes priorités. Ce matin, dans le journal, je lisais que la sécurité publique allait être un des points importants de ce discours-là de François Legault. Je pense qu'il n'y aura pas le choix de parler d'économie. Les finances vont assez mal au Québec depuis quelques années, puis la CAQ en est responsable. Je pense que si François Legault veut retrouver une certaine crédibilité au sein des électeurs qui, il y a quelques années, ont voté pour la CAQ, ben, il doit absolument parler d'économie. C'est inévitable. La CAQ s'est fait élire de même en parlant d'économie. On va être un parti un peu plus de droite que par rapport à ce qu'on a au Québec. Puis, tu sais, la droite au Québec, on s'entend que c'est le centre et même peut-être la gauche ailleurs. Mais quand même, tu sais, d'avoir un État plus petit, d'avoir moins de fonctionnaires, de dépenser moins, de moins intervenir aussi, de pas donner des millions et des millions à des entreprises étrangères. Il y a des éléments là-dedans qui n'auront pas le choix, j'ai l'impression, de se retrouver dans le discours de François Legault cet après-midi aux alentours de 14h, comme je vous ai mentionné. Soyez à l'écoute de Gravel dans le retour pour ne rien manquer de tout ça, pour avoir toutes les informations. Puis nous, ben ensemble, c'est sûr que dans les deux prochaines heures, jusqu'à temps que Jeff Fortin vienne s'installer avec Pascal CV et Antonine Iaccarini, ben c'est sûr que nous, on va continuer de suivre ce qui se passe. Je me rends compte à l'instant que j'ai même pas encore fait le tour de ce qui a été annoncé par différents médias ce matin. Fait qu'on peut le faire le tour ensemble. Question de faire une petite mise à jour. Jonathan Julien, qui était ministre responsable de la capitale nationale, se voit confier le ministère des Transports. Ça, c'est une des surprises ce matin, du moins à mon bien humble avis. Je pense que aux yeux de Yannick Marceau, le plan est un peu de mettre quelqu'un là qui va peut-être respecter des ordres qui viennent de plus haut. On va le dire comme ça. Jean-François Simard qui va remplacer Jonathan Julien comme ministre responsable de la capitale nationale. Ça, c'est un nouveau ministre qui fait son entrée. Geneviève Guilbeault qui s'en va aux affaires municipales. Ça me fait sourire un peu depuis que la rumeur commençait à circuler hier. Geneviève Guilbeault comme ministre des Transports a passé la dernière année et même plus à se pogner avec les maires et mairesses des villes du Québec en lien avec sa gestion, entre autres, du financement de transport en commun. Puis là, tu l'envoies aux affaires municipales où elle n'aura pas le choix, ça va être sa job, de collaborer avec ces mêmes maires et mairesses-là. Je dis pas que ça va mal se passer, là. C'est juste que, disons, qu'à part un petit peu, peut-être plus loin que n'importe qui d'autre qui aurait été placé là. Bernard Drainville qui s'en va à l'environnement. Ça n'a pas été long que sa fameuse citation de « lâcher moins avec les GES » a été ressortie. Citation qui avait été sortie. Puis tu sais, je pense que collectivement, on se souvient même pas tant que ça dans quel contexte ça avait été sorti, cette fameuse citation-là de « lâcher moins avec les GES ». Ben c'est en lien avec le troisième lien, où bon, il était questionné sur les gaz à effet de serre qu'apporterait le fait d'avoir peut-être plus de voitures sur les routes si on avait un troisième lien Québec-Lévis. Puis son angle de pensée, c'était « lâchez-moi que les GES, parce que de toute façon, dans quelques années, il n'y en aura plus de GES. Ça va être des chars électriques, ces routes. » Fait qu'on se rappelle beaucoup du lâchez-moi avec les GES, mais dans sa vision de la chose, c'était pour nous dire ben c'est pas important, les voitures qui vont passer sur le troisième lien puis qui vont être sur nos routes, ben ils vont être des voitures électriques. Fait qu'il n'y en aura pas de GES de toute façon. Si on continue notre petit tour, Sonia Lebel s'en va à l'éducation, donc un poste important pour elle qui était au Trésor. Yann Lafrenière, l'ancien policier du SPVM, s'en va à la sécurité publique. Sonia Bélanger à l'habitation, Pascal Derry à l'emploi, Caroline Proux aux aînés. Ceux qui restent à leur poste, Jean Boulay reste au travail, Éric Girard reste aux finances, Christine Fréchette qui demeure super ministre de l'économie et de l'énergie, Mathieu Lacombe reste à la culture, Christian Dubé reste à la santé. Je pense qu'il n'y a pas énormément de surprises là, dans tous ces éléments-là dont je viens de vous parler. Donc, parmi les points d'interrogation, je vous rappelle Simon Jolin Barrette, qui est un élu que j'estime beaucoup. Je trouve que c'en est un des bons. J'ai hâte de voir ce qu'on va lui donner. Jean-François Roberge aussi. Jean-François Roberge à l'immigration. Moi, je m'attendais vraiment à le voir rester là. Il est en train de piloter quand même une réforme qui serait importante au Québec au niveau de l'immigration. Est-ce qu'on va le tasser? J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va ramener Simon-Jolin Barrette à l'immigration? Qu'est-ce qui va rester à ce moment-là pour Jean-François Robert? Je pense que le trésor, on ne l'a pas encore. Est-ce qu'on pourrait envoyer Jean-François Robert au trésor? Moi, Simon-Jolin Barrette, je trouve que c'est un gars qui mérite d'avoir un rôle important où on va le voir beaucoup. Puis le Trésor, présentement, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui pourrait lui offrir cette belle visibilité-là. Donc, j'ai bien hâte de suivre tout ça avec vous dans les prochaines heures. Puis, comme je vous disais tantôt, là, on va en parler dans les prochaines minutes avec Thierry Giasson, beaucoup de l'aspect communication politique. Fait que pas nécessairement de quelles décisions vont être prises à partir de maintenant dans le très concret, mais au niveau de la communication, à quoi ça sert un exercice comme un remaniement ministériel. Puis, au 418-971-1021, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. question. Jonathan, voudrais-tu bien m'expliquer, ça sert à quoi un ministre? Parce qu'on entend que pour être le ministre, exemple des transports, à mon avis, ben, il faut que tu ailles un minimum de connaissances en transport. Comment ils peuvent jongler avec les ministères comme ça? C'est une très bonne question, puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se la posent, cette question-là, parce qu'en effet, tu sais, là, Yann Lafrenière qui s'en va à la sécurité publique, ça fait énormément de sens. C'est un ancien policier. Clairement, ce gars-là devrait faire une belle job. Il a l'expérience. Mais c'est vrai que d'envoyer un Bernard Drainville, exemple, à l'environnement, qu'est-ce que fait dans vie Bernard Drainville pour que ça fitte avec l'environnement? Surtout avec certaines prises de position passées, on pourrait se dire « Ouais, ça a comme vraiment pas rapport. » Mais en fait, dans le concret, comment ça serait supposé fonctionner, c'est que oui, un ministre arrive en tête, mais après ça, ben, il collabore avec beaucoup d'autres individus, puis il les chapeaute, puis ce sont ces individus-là qui ont peut-être plus les connaissances pour aider le ministre dans sa prise de décision. Je trouve que c'est pas si fou que ça comme façon de fonctionner, d'apporter une vision qui est extérieure. Mais c'est sûr que dans un modèle parfait, oui, au transport, il faudrait quelqu'un qui s'y connaît très bien en transport. Il faudrait qu'en santé, ce soit quelqu'un qui s'y connaît super bien en santé. Le questionnement de Jonathan, il est très valide. On va aller faire un petit tour à la circulation parce que ça n'a vraiment pas été facile ce matin, puis je vois que ça ne l'est pas encore. L'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, toujours très compliqué par la 73 nord, évidemment. Là, ça bouche encore un peu passé rue Beaulieu. Il y a eu un accident ce matin sur le pont Pierre-Laporte, ou du moins à sa sortie aux alentours de 6 heures. Et depuis ce temps-là, excessivement difficile de passer de la rive sud à la rive nord. À la météo, c'est un 16 degrés qu'on a présentement. On attend un beau 23 aujourd'hui, généralement ensoleillé. Ce soir et cette nuit, ça redescend à 10. Les nuits, là, c'est plus chaud, moi, vous dire. T'sais, dans la nuit de demain, c'est un 6 degrés. Hier matin, quand on s'est levé, c'était un 5 degrés. Mais la semaine qui a bien du bon sens. Là. Aujourd'hui, demain, vendredi, c'est du gros soleil. Samedi, des nuages, mais pas de pluie normalement. C'est dimanche qu'on pourrait avoir quelques gouttes. Mais à part ça, on va prendre le beau temps, évidemment, avec grand plaisir. Il y a le festival Phono en fin de semaine dans le coin de l'Université Laval. Il y a le festival Envol et Macadam aussi pour les amateurs de punk. Avec des belles options dans différents genres. Si on fait un petit tour d'actualité avant de jaser avec notre invité, bon là, remaniement ministériel, je pense qu'on a fait le tour puis on va en reparler dans quelques secondes. Là. Si on va dans les faits divers quelques instants ensemble, il y a eu arrestation dans les derniers jours des enquêteurs du module de la violence urbaine du SPVQ, entre autres quelques équipes qui ont travaillé sur le dossier. Là. Mais trois individus qui ont été arrêtés pour extorsion, agression armée, voie de fait, menace et pour des infractions relatives aux armes. Deux mineurs âgés de 17 ans ainsi qu'un homme de 18 ans qui ont été arrêtés dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Donc, il y a des perquisitions qui ont permis de saisir un couteau, deux armes de poing qui s'apparentent à de vraies armes, les vêtements aussi utilisés lors des agressions. Ce qu'on nous raconte du côté du SPVQ, c'est qu'entre le 30 août et le 2 septembre, les suspects qui ont fait deux victimes d'âge mineur, ils les ciblaient, les attiraient à des endroits spécifiques et avec de la menace verbale, physique et même d'armes contondantes ou d'armes s'apparentant à des armes à feu, les suspects qui demandaient aux victimes de retirer tous leurs effets personnels. Donc, dans les faits divers, là, c'est pas mal la nouvelle ce matin. Dans les prochaines secondes, on discute avec Thierry Giasson, spécialiste de la communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval. On jase du remaniement ministériel de François Legault. C'est dans quelques secondes. 10h16 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, vous voulez réagir, vous avez des questions pour notre invité, 418-971-1021 par texto, n'hésitez jamais. Il y a aussi toujours la belle communauté sur Twitch qui réagit en direct, BLVD, barre en bas. FM, la communauté, comme je vous le dis, là, qui est très active, qui discute beaucoup entre elles des sujets qu'on aborde en onde. Et le sujet aujourd'hui dans l'actualité, c'est le remaniement ministériel de François Legault, qui ressemble plus à un jeu de chaises musicales, des noms qu'on connaît qui restent là. Bon, il y a quelques nouveaux venus, il y a quelques ministres qui perdent leur limousine, comme on dit, mais généralement, c'est pas mal des ministres qui restent ministres. Des fois, ils changent de ministère, mais il y en a même pas mal qui restent exactement à la même place. Et pour en parler, Thierry Giasson, qui est spécialiste de la communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval. Monsieur Giasson, bonjour.
Bonjour, Monsieur Larouche.
Les annonces officielles vont être faites à 14 heures, mais déjà, on a l'essentiel du remaniement, on a l'essentiel des informations. Avec plusieurs ministres qui restent en place, est-ce qu'on peut quand même parler de vrais changements ou la crainte qu'avaient plusieurs, ou du moins ce que plusieurs pensaient qu'il allait arriver, c'est juste cosmétique, ça ressemble à ça?
Écoutez, on va le voir. La réaction des gens va venir après 14 heures, mais je pense que déjà, on observe ce matin certaines réactions à des articles de vos collègues du Journal de Québec, de la presse, du Devoir qui ont parlé avec des anciens ministres, des nouveaux ministres. Il y a probablement aussi des informations qui ont été communiquées par le bureau du premier ministre, mais je pense que c'est davantage des textos et peut-être des petits coups de fil là, entre membres du Conseil des ministres qui ont confirmé leurs affectations, leurs nouvelles affectations, leur maintien en poste. Donc, les attentes sont importantes parce que le gouvernement nous a dit au retour des vacances, puis surtout après l'élection partielle qu'on a eue cet été, qui a été perdue par la CAQ, que le gouvernement voulait s'engager dans un processus de recadrage, là, qu'il fallait relancer un peu l'action en prévision de la dernière année du mandat puis de l'échéance électorale qui s'en vient l'année prochaine. Et ce remaniement-là, il était vraiment présenté comme étant quelque chose de un peu la clé de voûte, là, l'élément central de cet exercice de relance. Mais le premier ministre devait composer un peu avec des impondérables, c'est-à-dire il y a des gens qui sont difficiles à déplacer, il y a des gens qui ne veulent pas quitter, en fait, qui veulent se représenter à la prochaine élection, qui voient probablement la possibilité là, que la CAQ remporte un autre mandat, donc ils veulent y aller. Et puis, il y a des gens que le premier ministre est allé chercher lui-même, hein, qui sont un peu des symboles de son autorité, de son jugement, et il ne peut pas sortir. C'est genre, je pense à quelqu'un comme Bernard Drinville, à Martine Biron, c'est des gens qui n'étaient pas nécessairement sur le radar de la CAQ et que le premier ministre est allé chercher pour l'élection de 2022. Et s'il sort ces gens-là de son cabinet, bien là, on peut commencer à se poser des questions sur son jugement à recruter des gens de qualité. Alors, il ne peut pas écarter des gens. Puis en même temps, il faut qu'il fasse monter des nouveaux visages. On veut relancer l'image du gouvernement. La marque de la CAQ, ben, il faut la changer. Il faut qu'il y ait des nouveaux visages. Alors, il faut faire de la place. Alors, il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent, mais il y a beaucoup d'impondérables avec lesquels le premier ministre doit composer. Là. Il n'y a pas toute la marge de manœuvre. Alors, il fallait peut-être aussi un peu, atténuer les attentes. Puis je pense que ce travail-là d'atténuation des attentes n'a pas été fait suffisamment.
Non, puis c'est peut-être une raison pourquoi, par contre, c'était avantageux pour le gouvernement dans les derniers jours de laisser fuiter certaines affaires. T'sais, ça n'a pas été long qu'on a eu des infos à l'effet que, ouais, tel ministre va rester à son ministère, tel autre ministre. Puis même, c'était sorti dans certains médias qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des ministres qui restent exactement au même ministère. Puis dans ce contexte-là, c'est une chose de garder les mêmes ministres, mais de les changer un peu de ministère. Là, il y a comme plusieurs ministères importants qui gardent exactement le même ministre. Jean Boulay reste au travail, Éric Girard aux finances, Christine Fréchette à l'économie et l'énergie, Christian Dubé, ça c'est pas une surprise, mais reste à la santé, même Mathieu Lacombe qui resterait à la culture. Dans la situation actuelle de la CAQ, là, où j'ai envie de dire on n'a plus rien à perdre, ça aurait pas été mieux de garder, on le prend le risque, puis on essaye de vraiment brasser quelque chose puis d'amener des vrais changements. On fait un gamble.
Je ne pense pas que c'est la personnalité du premier ministre de prendre des risques inutiles. Ce n'est pas l'ADN de François Legault. Ce n'est pas l'ADN des gens qui le conseillent non plus. C'est des gens qui... Et je pense que ça explique, entre autres, qu'on n'ait pas voulu déplacer M. Girard, qu'on n'ait pas voulu déplacer Mme Fréchette. C'est deux ministères très importants dans un contexte où l'économie québécoise, puis je dirais globale, mondiale, est secouée par des tendances assez incertaines. Donc, de déplacer des ministres qui veillent d'une certaine façon à la santé économique de la province, qui sont qui ont des faits d'armes qui ne sont pas largement contestés, je dirais. Il y a eu des surprises. L'annonce du très gros déficit qu'on nous a présenté l'année dernière était une mauvaise surprise. L'échec de Northvolt, c'est un énorme boulet là, que le premier ministre doit traîner. Mais Mme Fréchette, je dirais, va au battre. Et elle fait son travail pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, elle est considérée, je pense, à l'intérieur de l'équipe du premier ministre comme une bonne ministre de l'économie, une bonne pédagogue, une bonne porte-parole. Donc, je pense qu'on pouvait s'attendre à ce que ces gens-là ne bougent pas. Même chose pour le ministre de la Santé, qui mène une grosse barque en ce moment avec des modifications, des transformations majeures, des négociations importantes. De changer cette étape-ci, le ministre aurait pu envoyer un mauvais signal à la population à l'idée que, ben oui, peut-être qu'on fait des erreurs et qu'il y a des choses à corriger. Donc, encore une fois, il y a des perceptions, des optiques là, qu'il faut protéger et ménager dans un exercice comme celui-là.
On parle, je vous rappelle, à Thierry Giasson, il est spécialiste de la communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval. Il y a certains changements qui font réagir. Autant il y a des changements qui, bon, au final, ne sont pas des changements, autant un genre de Bernard Drainville à l'environnement, entre autres considérant sa fameuse citation « Lâchez-moi avec les GES », que ça n'a pas été long que c'est ressorti puis que les gens rigolaient un peu de ça sur les réseaux sociaux. C'est pas un peu particulier de placer un gars controversé comme Bernard Drainville, qui a déjà eu des citations particulières sur l'environnement, ministre de l'Environnement. Ça, on parlait de risque inutile, entre guillemets. Ça n'en est pas un?
Est-ce que c'est un risque? Je ne sais pas. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment la paire, si elle s'avère, là, la paire de Bernard Landry à l'environnement et de Geneviève Guilbeault aux affaires municipales et de Jonathan Julien. En fait, ça va être un triangle, un triumvirat, un trio, comme on dit en sport. Et Jonathan Julien qui se retrouvera au transport, qui sont des poids lourds de la région de Québec, là, et qui vont avoir tous les trois à statuer sur un projet qui est un projet énorme, que certains critiques appellent pharaonique, qui est le projet du troisième lien, et qui... ce sont tous les trois engagés à faire ce projet-là, à mener ce projet-là, à se placer derrière ça. Donc, ça envoie l'arrivée de Bernard Landry. Bernard Drainville. Landry, quelle astuce. Bernard
Drainville.
C'est intéressant. Donc, de Bernard Drainville à l'environnement, je pense que ça va soulever beaucoup, beaucoup de questions, en particulier au sein des opposants du projet du troisième lien qui. Je dirais, fédère là, l'ensemble des mouvements environnementaux contre lui. Et donc, de voir quelqu'un qui a été le défenseur de ce projet-là, vous l'avez bien dit, là, c'est en réponse à une question sur le troisième lien où il a soulevé ça, là, cette idée de « laissez-moi tranquille avec les GES ». Donc, c'est ça, il part avec des casseroles. C'est peut-être pas la meilleure posture dans laquelle engager une arrivée dans de nouvelles fonctions. Mais je pense qu'on lui prétend on lui reconnaît, je ne veux pas dire prétend, je vais utiliser le terme de reconnaître, on lui reconnaît des qualités de bon communicateur. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs aussi, un peu comme le fait le premier ministre. Et donc, il aura un travail à faire là, d'explication et de cadrage, de recadrage de son arrivée, si ça s'affirme, si ça se confirme, à l'environnement.
Vous parliez du trio de la grande région de Québec avec Mme Guilbeault, M. Drainville, M. Julien. À ça s'ajoute M. Simard qui va devenir responsable de la capitale nationale. Ça, c'est un des très, très rares nouveaux visages qu'on voit dans le Conseil des ministres. Est-ce qu'en ajoutant un ministre de la région, en gardant ceux qui étaient déjà ministres, tu sais, parce que je vais être bien honnête, là, Jonathan Julien, je m'attendais à ce que s'il perd son poste de responsable de la capitale nationale, ce qui est arrivé au profit de M. Simard, ben je m'attendais à ce que Jonathan Julien perde sa limousine de ministre aussi. Puis là, finalement, à la surprise, j'ai envie de dire générale des réactions que je vois jusqu'à maintenant, on le place dans un rôle important au transport. Est-ce que pour la CAQ, de garder les députés de la capitale nationale comme ministres importants, c'est une façon de venir sauver un peu ce qui peut peut-être rester d'appui dans la région de Québec?
Oui, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Après, il faut étudier les appuis. Je pense que les appuis de la CAQ dans la région de Québec se sont effondrés. s'il y avait des élections aujourd'hui dans Québec, il n'y a aucun des députés de la CAQ qui remporterait son élection. On aurait des députés conservateurs et des députés péquistes.
Péquiste, ouais.
Et puis peut-être encore un député, un seul député de Québec solidaire. Donc, peut-être. Donc, on ne s'enligne pas du tout, là. On s'enligne vers un terrasse, je veux dire, un anéantissement là, de la CAQ dans la région de Québec. Donc, je pense qu'il y a une volonté, encore une fois, de rappeler peut-être symboliquement l'importance que le premier ministre accorde à Québec dans son projet politique, sa vision politique. Il reconnaît une importance à la capitale nationale, à cette région-là, puis évidemment à la rive sud. Donc, c'est semble-t-il, selon moi, indicateur de ça, là, de venir, encore une fois, nommer un corps important. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu au moins trois ou quatre ministres poids lourds. Éric Kerr l'a été avant son départ du ministère de la Cybersécurité. Donc, c'est ça, de voir, bon, évidemment, je ne pense pas que M. Kerr va revenir aux affaires, là, mais de faire remonter quelqu'un qui, en plus, il y a très longtemps, néanmoins, dans un autre parti, a eu une expérience ministérielle. C'est pas inintéressant. Et c'était quelqu'un qui attendait depuis de nombreuses années dans l'antichambre pour pouvoir patiner.
Je vois que dans les dernières minutes, Radio-Canada nous a donné une petite mise à jour d'informations qu'on n'avait pas encore. Donc, parmi ceux qui gardent leur place dans le même ministère, on peut ajouter deux ministres. Gilles Bélanger qui reste, on parlait d'Éric Kerr. Gilles Bélanger qui avait pris sa place à la cybersécurité numérique. Bien, Gilles Bélanger qui reste là. Lionel Carman reste aussi aux services sociaux. Fait qu'on vient ajouter des ministres qui restent exactement où ils étaient. Et là, à date, bien, dans les nouveaux ministres, on n'en avait rien qu'un. On a parlé, Jean-François Simard qui devient responsable de la capitale nationale. À ça, on ajoute Donald Martel qui sera le prochain ministre de l'Agriculture. On a mentionné à quelques reprises le nom de Geneviève Guilbeault qui, pendant longtemps, était une étoile montante au sein de la politique québécoise, vice-première ministre, grand rôle. On disait c'est quand François Legault va quitter, bien, c'est elle qui va devenir chef de la coalition Avenir Québec, puis éventuellement première ministre du Québec. L'étoile de Geneviève Guilbeault a pâli beaucoup dans les derniers mois. Là, de ce qu'on comprend, elle perdrait son poste de vice-première ministre. Il n'y a rien de confirmé à cet effet-là, mais c'est pas mal ce qui s'en viendrait. Mais beaucoup s'attendaient carrément à la voir ne plus être ministre. Puis ça m'amène à François Bonnardel, qui, dans la foulée du fiasco Saclic, lui a perdu sa job de ministre. Pourquoi Bonnardel et pas Guilbeault dans ce que ça peut avoir comme impact niveau communication aux yeux du public?
C'est une bonne question. Geneviève Guilbeault, elle incarne quelque chose de très symbolique dans la CAQ. Plus que François Bonnardel, qui était un des principaux alliés là, de François Legault. François Bonnardel, il a participé à la fusion de la DQ avec la CAQ. Je veux dire, ça a été un soldat de la première heure. Il y a cru et il a tout fait pour que la coalition trouve un socle de députés rapidement quand la DQ, à l'Assemblée nationale, quand la DQ a fusionné avec la coalition Avenir Québec. Et très vite, on lui a donné des responsabilités. C'est un soldat. Des fois, les soldats, on les envoie faire des missions difficiles, puis ils ne reviennent pas. Et Mme Guilbeault, je vous dirais qu'elle incarne, selon moi, là, on entre dans l'univers plus symbolique de la communication politique, puis de la politique, je vous dirais, en général. Geneviève Guilbeault, ça a été la première élue de la CAQ dans la région de Québec, et elle a gagné une partielle importante dans une circonscription où il n'était pas prévu qu'elle gagne. Et elle a gagné, puis elle n'était même pas la première candidate de la CAQ. Il faut se rappeler, l'élection de Lionel, Louis Hébert, elle a été nommée comme remplaçante d'un candidat qui a dû se retirer pour suite à des accusations de harcèlement. Et elle s'est retrouvée là, elle a fait campagne, elle remporte l'élection, et elle a été un peu le premier domino de la réaction en chaîne qui va amener la CAQ au pouvoir en 2018. Donc, elle revêt un caractère très symbolique, je pense, pour François Legault. Elle a longtemps été considérée avec M. Jolin Barrette comme étant les dauphins de François Legault. Ça aurait été très surprenant que François Legault l'expulse du cabinet. Il ne l'a même pas démise. Elle n'a pas une démission, là. Je vous dirais que c'est bon, les affaires municipales, c'est énormément de pouvoir, énormément d'accès. Elle demeure encore une joueuse clé dans ce cabinet. Et donc, elle en sort, je vous dirais, grandie, là, parce que ce qui s'est passé à la commission Galant, ça s'est passé. Tout le monde a entendu ça.
Elle
Et
s'en
les gens,
sort bien.
elle s'en sort très bien et ça va peut-être générer des réactions plus intempestives là, dans l'opinion publique.
En terminant, Monsieur Giasson, je suis curieux de vous entendre parce qu'on parlait de Geneviève Guilbeault et du poste de vice-première ministre. Là, on se demandait, OK, si elle est vraiment démise de ce poste-là, qui va prendre sa place? Et ce matin, j'ai vu passer que Stéphanie Touga, qui est une analyste politique, a mentionné à LCN que c'était bien possible, selon ce qu'elle entendait, que le poste de vice-premier ministre ou de vice-première ministre reste vacant. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans comme stratégie de communication? J'ai un peu de la misère à voir pourquoi on laisserait ce poste-là vacant.
C'est symbolique un poste de vice-premier ministre ou de vice-première ministre. C'est pas, c'est une institution qu'on peut combler, mais qui n'est pas nécessaire. C'est quelqu'un qui peut remplacer le premier ministre ou la première ministre si cette personne-là est en incapacité. Mais il y a un ordre de préséance aussi à l'intérieur d'un cabinet. Donc, tous les ministres n'ont pas nécessairement le même ordre de préséance. Et c'est possible qu'une autre personne puisse être nommée, gouverner ou accompagner le gouvernement si le premier ministre ou la première ministre est en incapacité. C'est plus facile quand on a un vice-premier ministre ou une vice-première ministre, mais encore une fois, ce n'est pas systématique dans tous les gouvernements de voir ça. Je pense que c'est pas parce que c'est pas sorti qu'il n'y en aura pas. C'est possible qu'il n'y en ait pas, mais on pourrait très bien envisager que quelqu'un comme Madame Fréchette ou Madame Lebel ou Madame Biron soit appelé à assurer cette fonction-là.
Thierry Giasson, spécialiste de la communication politique au département de sciences politiques de l'Université Laval. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Dans les prochaines minutes, Marceau vient nous raconter la méchante surprise qu'il y a eu en ouvrant sa porte de char hier soir. Si vous ne l'avez pas entendu ce matin, vous ne voulez pas manquer ça.
Physio.com.
Bienvenue dans le Point Max.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard. 102-1.
10h40 minutes, c'est 16 degrés présentement à Québec, généralement nuageux, mais ça devrait se dégager dans les prochaines heures et on va aller chercher un 23 degrés. On redescend à 10 ce soir et cette nuit, mais deux autres belles journées demain et vendredi, 21 et 20 degrés respectivement, avec du gros soleil. Et samedi, pas de pluie au menu non plus, ce sera nuageux avec un 19 degrés, mais tant qu'il mouille pas, on est heureux. C'est dimanche que les gouttes pourraient arriver, mais c'est juste un petit 30% de possibilités d'averses sur la route. Toujours des problèmes pour rejoindre le pont Pierre-Laporte direction nord. Ça n'a pas été facile ce matin depuis un accident à sortie du pont Laporte aux alentours de 6 heures. Chaque matin, dans Marceau le matin, 7h45, Denis Gravel vient faire son tour pour le pit stop. Et ce matin, Marceau avait quelque chose à nous raconter. Puis si vous l'avez manqué, vous avez une chance de vous reprendre là. Fait que restez là. Marceau qui vous raconte quelque chose d'assez particulier qui est arrivé hier soir.
OK, 16h, j'ai ri à l'embarras, je le souhaite. T'as dû faire un méchant saut.
Oui.
Puis encore une fois, je suis vraiment content que mon saut ait pas été filmé ni enregistré.
Nous autres, on aurait aimé ça que Marceau soit filmé quand il a fait le saut hier. Mais je pense qu'on peut pas y en vouloir ben d'avoir fait ce saut-là. Puis je pense qu'on aurait tout un peu crié comme une fille. Cela dit, salutations à Marceau, qui dans les circonstances a très bien agi des textos qui rentrent. Donc, une bonne personne, Marceau. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas réagi de la même façon. Dans les prochaines minutes, la merveilleuse Audrey Pinchot s'en vient en studio. Venez nous voir sur Twitch, BLVD barre en bas FM.
Inspiration.
Hey, tu cherches une job ou t'as juste besoin de changer d'air, ça arrive des fois qu'on se sent plus nécessairement bien où on est puis qu'on a le goût d'aller voir ailleurs. Et là, je parle bien d'emploi. Ben ça tombe bien parce que Costco recrute en ce moment pour divers postes dans ses entrepôts de Québec. Avec l'ouverture d'un tout nouveau Costco sur la rue du Marais en décembre, ben le timing y est parfait pour toi. Ça t'intéresse, participe à notre événement de recrutement. C'est pas mal présentement que ça se passe jusqu'à demain. Pour en savoir plus, ben c'est au costco.ca dans l'onglet carrière. Costco, c'est une culture forte qui encourage la progression de carrière en favorisant la promotion interne, des salaires compétitifs et d'excellents avantages sociaux. Tous les détails. Costco.ca, onglet carrière.
La routine est déjà bien entamée.
11h02 dans le Point de Max. Audrey Pinchot est en studio. Juste avant de faire le segment Open Mic, pas le choix d'aller dans l'actualité parce que les informations continuent de sortir au compte-goutte par rapport au remaniement ministériel de François Legault. Et dans les dernières minutes, on a appris entre autres que Jean-François Roberge, parce que c'en est un qu'on savait pas trop ce qui se passait encore avec lui, finalement, c'en est un autre qui va rester exactement à la même place. Fait que ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. En gros, c'est un remaniement ministériel qu'il y a pas mal de monde qui reste exactement où il était. On pense à Christian Dubé à Santé, Éric Girard aux Finances, Mathieu Lacombe à Culture, Christine Fréchette, Économie et Énergie, Jean Boulay, ministre du Travail, Gilles Bélanger, Cybersécurité et Numérique, Lionel Carman aux Services sociaux. Dans les changements, je vous rappelle, Sonia Lebel à l'Éducation, Martine Biron à l'Enseignement supérieur, Jonathan Julien au Transport, ça en a surpris plus d'un ce matin, j'en fais partie, Yann Lafrenière à la Sécurité publique, Caroline Proulx aux Aînés, Geneviève Guilbeault aux Affaires municipales, Bernard Drainville à l'Environnement. Et à date, il y a juste deux nouveaux ministres. Fait que, tu sais, des députés qui n'étaient pas ministres pendant tout, là. Il y a Jean-François Simard qui, sans surprise, parce que ça avait circulé pas mal, qui devient responsable de la capitale nationale. Et il y a un certain Donald Martel qui devient ministre de l'Agriculture. On continue de suivre ça. Dès 14h, quand le tout deviendra officiel, je vous invite à être avec l'équipe de Gravel dans le retour qui, bien sûr, va vous tenir au courant. Audrey Pinchot, comment ça va?
Ça va bien! Ça va super bien, mais c'est un sujet un peu plus dark qu'on va aborder évidemment aujourd'hui ensemble. Je vous apprends absolument rien.
Mais en même temps, c'est le côté espoir qu'on veut aborder.
C'est un peu ça. C'est la Journée mondiale de la prévention du suicide. Puis c'est drôle parce que chaque fois que cette journée-là arrive, ou Belle Cause, ou n'importe quelle journée finalement où on souligne tout ce qui touche la santé mentale, j'ai toujours un peu le même questionnement depuis une couple d'années de est-ce qu'on en parle trop, parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez. Est-ce qu'on en parle de la bonne façon? Est-ce qu'on fait toujours trop la même affaire? Est-ce que, tu sais, je me demande toujours c'est quoi la façon de toucher les gens sans que ce soit redondant pour les gens qui se sentent pas concernés. Vous avez peut-être entendu le témoignage de Jeff ce matin. Sinon, je vous invite à aller le réécouter. Jeff a eu une passe assez rough dans sa vie. Puis je trouve ça beau de voir des gens, je vais dire de sa génération, on n'est pas dans le même, c'est la réalité, qui sont capables de prendre la parole par rapport à ça, d'assumer ce qu'ils ont vécu, de parler de leur cheminement.
De s'ouvrir,
je trouve ça hot. Puis vous le savez, à Boulevard, on en parle beaucoup de santé mentale. Là. Dans le retour, nous autres, c'est un livre ouvert par rapport à la santé mentale. Fait que si vous avez des histoires, vous avez envie de partager ce matin, 88-971-1021, l'angle qu'on va prendre, c'est celui de la première ligne. Puis je m'explique, quand vous appelez des centres d'aide, par exemple le Centre de prévention du suicide de Québec, il y a des gens qui vous répondent. Bien, c'est qui ces gens-là? Sont-ils formés? C'est-tu n'importe qui? Ils ont-tu les compétences? C'est quoi faire cette job-là? C'est de ça qu'on va parler.
L'Open Mic. Just in time for Open Mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Quelques statistiques, c'est des chiffres qu'on n'aime pas entendre, mais avant d'accueillir notre invité, j'ai envie de vous les partager parce que je trouve que ça fesse puis on l'oublie. Un adolescent sur cinq qui a envisagé le suicide au cours des 12 derniers mois, 20 % de nos adolescents, ça me fait capoter. Le taux de mortalité par suicide qui est deux fois plus élevé que le taux de mortalité sur les routes. Imaginez, au quotidien, on entend parler d'accidents de voiture, là. Imaginez.
Quasiment chaque jour, on a des accidents mortels au Québec.
Oui. Un peu moins surprenant, 48 % des appels reçus qui proviennent d'hommes. On sait que c'est une clientèle qui est très, très présente. Les gars qui vont avoir tendance souvent à attendre le fond du baril avant de réagir, contrairement peut-être à la gente féminine. Puis on généralise ici, là.
Ben, on généralise, mais c'est ça. Mais les chiffres parlent. C'est ça, pareil. Puis je pense que c'est pour ça, tu sais, tu disais qu'on en parle beaucoup à Boulevard, là. Généralement, on est une radio qui est plus écoutée par les gars, selon les statistiques. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous d'en jaser, pour aller en jaser aux hommes, puis que ces hommes-là, qui sont peut-être dans des mauvais espaces ou qu'un jour vont être dans des mauvais espaces, se disent « Hey, ouais, on a beaucoup dialogué là-dessus. J'écoute Boulevard, il en parle beaucoup, il y en a d'autres dans ma situation. Je peux faire comme les autres puis m'ouvrir. »
À Québec, environ 2 personnes s'enlèvent la vie chaque semaine. Puis chaque jour, au Québec, c'est près de 3 Québécois qui nous quittent. Fait que c'est complètement tragique. J'ai comme le goût, Max, de te poser une question super personnelle. Puis en fait, on n'a même pas parlé. Fait que je regarde la statistique sur les jeunes, les adolescents. Je veux dire, on est jeunes, toi puis moi. Là, on est dans les plus jeunes ici à la station. C'est-tu déjà quelque chose qui t'a passé par la tête?
Non, parce que j'aurais pas, puis c'est drôle à dire, là, puis je vais m'expliquer après, mais j'aurais pas le courage de m'enlever la vie. Je veux dire, si t'as le courage de dire, hey, moi je saute dans l'inconnu au point de m'enlever la vie, puis je suis désolé, mais t'as le courage de passer par-dessus n'importe quoi que tu peux être en train de vivre. Là. Ouais. Moi, c'est de même, je le vois. T'sais, quelqu'un qui ose s'enlever la vie avec ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas l'autre bord, qui... Tu peux passer à travers, mon chum. T'as la force. Si t'as la force de faire ça, t'as la force de faire n'importe quoi. Mm. Puis pour cette raison-là, moi, ce serait inimaginable, peu importe ce qui arrive, de faire ça.
Je pense qu'on est chanceux parce qu'on est des gens qui sont très bien entourés. Puis en même temps, je dis ça, puis c'est un peu ironique parce qu'il y a des gens très bien entourés qui finissent par s'enlever la vie. Souvent, c'est ceux qu'on voit pas venir, en fait. Mais j'ai jamais considéré non plus. Il y en a eu des bouts de rough, là. Il y en a eu, là, comme
on,
tout le
on
monde.
En a
là, on
en
a toutes. Mais de là à considérer ça, tu vois, moi, ça m'a jamais même effleuré l'esprit. Mm. J'ai des gens proches de moi, par exemple, qui sont passés par des bouts vraiment tannants. Puis je me retourne vers vous, les auditeurs, 88-971-1021 encore. Je sais pas si c'est ma curiosité malsaine, j'ai besoin de comprendre, mais je me demande qu'est-ce qui pousse à se rendre à ces pensées-là encore aujourd'hui. J'ai toujours eu de la misère, puis en même temps, je pense que ça fait partie du pourquoi on a cette entrevue-là ce matin aussi. Je pense que tu peux pas comprendre tant que tu t'es pas rendu au fond du baril. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pas rationnel rendu là non plus, parce que moi, longtemps, personnellement, j'en ai voulu, mais voulu à des gens qui se sont enlevé la vie de près ou de loin dans mon entourage parce que je trouvais ça lâche. Et je trouvais ça épouvantable. Je me disais, il y a tellement de ressources.
Ouais.
Il y a tellement d'aide disponible. Les gens sont là. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? mais c'est ça. Je pense que probablement que rendu à ce stade-là, tu vois plus rien autour de toi, probablement. Fait qu'on va parler de tout ça ce matin avec Éric Arsenault, qui est coordonnateur du secteur clinique au Centre de prévention du suicide de Québec depuis 25 ans, énorme. Fait qu'il coordonne tout ce qui touche l'intervention, dont la première ligne, la stratégie numérique, l'intervention clinique, le post-vention qu'on appelle aussi, on pourra en parler. Avant tout, 25 ans, Éric. Bon matin, mais 25 ans, comment on reste sain mentalement?
Ben, c'est une bonne question, puis vous l'avez nommé, c'était un sujet dark en début.
Ben oui.
En même temps, la prévention du suicide, on parle plus de... On s'intéresse peut-être plus à la partie qui veut vivre la personne et qui existe toujours, là. Ce qui fait qu'on est toujours tourné vers l'espoir. Donc, il y a quelque chose de très intéressant d'avoir accès à une vérité pure quand quelqu'un nous appelle, par exemple, ou quelqu'un vient nous rencontrer. La souffrance, puis en même temps, la souffrance a plusieurs visages, dans le fond. Je vous entendais parler de courage ou lâcheté. Mm-hmm. Souvent, ce qualificatif-là vient plus de la personne qui regarde, qui est extérieure à tout
Mais
ça,
oui.
Parce que la personne qui est prise dans ce processus suicidaire-là voit plus ça, a plus accès à ses forces et tout ça, d'où l'importance d'un centre de prévention du suicide pour aider les gens à prendre un pas de recul, récupérer ses forces, puis effectivement, les forces sont toujours présentes, c'est juste que la personne ne voit plus.
Puis, pour aller chercher de l'aide, je trouve ça important de le dire, parce que comme tu l'as mentionné, quand t'es rendu, t'es là, t'es sur le bord, tu vois plus nécessairement clair, pour aller chercher de l'aide en lien avec le suicide, t'es pas obligé là, d'attendre d'être là, puis d'être prêt, puis tu passes à l'acte dans deux... Tu peux le faire avant.
Ça a beaucoup évolué au fil des 25 dernières années. J'ai envie de dire, le Centre de prévention du suicide est le premier centre de prévention du suicide au Canada. On va fêter bientôt nos 50 ans.
Aïe, aïe. Wow.
Donc, on a exporté à l'époque, j'étais pas là à ce moment-là, mais exporté le modèle californien, dans le fond, de la prévention du suicide. Mais ça a beaucoup évolué dans les dernières années et aussi la démystification de la demande d'aide. C'est pour ça qu'on voit encore un travail important à faire avec les je suis content de voir que c'est des 40 ans et plus. On parlait de la clientèle de Boulevard. Puis encore une fois, je vous ai pas remercié de nous avoir invités parce que souvent, on est éclipsé la journée mondiale par d'autres activités. Hein. Oui. Le remaniement aujourd'hui va prendre beaucoup de place. En même temps, c'est important d'en parler parce que les hommes de 40 ans et plus, puis là, je me permets de le dire parce que j'ai 40 ans et plus. C'est plus difficile pour nous d'aller chercher de l'aide parce qu'on vit de la honte, etc. Ouais. Donc, une ligne comme la nôtre permet un certain anonymat, permet aussi de parler avec quelqu'un qui est peut-être neutre. Parce que oui, effectivement, il y a des gens qui sont bien entourés, mais qui se sentent tout seuls au monde. Et des gens qui sont mal entourés et qui se sentent très bien tout seuls au monde.
On peut-tu juste appeler parce qu'on file pas sans avoir l'intention de s'enlever la vie? Je m'explique, là, j'ai lu un texto qui est entré. Pour te répondre, Audrey, moi, la meilleure comparaison, c'est de te parler de torture intérieure. Un feeling qui te dévore de l'intérieur, pas capable de penser à autre chose que le malheur qui t'arrive. À un moment donné, tout ce que tu veux, c'est en finir parce que c'est trop. Te reposer de ces émotions-là qui sont super déchirantes puis qui sont trop présentes au quotidien. Je me dis, avant de te rendre là de brouiller du noir de bord en bord puis qu'il n'y en ait plus de lumière, je pourrais-tu, moi, appeler le Centre de prévention du suicide de Québec parce que je suis dans une pause vraiment rough puis j'ai peur d'où je pourrais me rendre?
Oui, puis comme je disais, ça a beaucoup évolué. À une certaine époque, je pense que les gens nous appelaient à la dernière minute.
Oui.
Maintenant, on a beaucoup démystifié la demande d'aide et là, les gens vont nous appeler à la moindre défaillance. Hein. On est un centre de prévention, donc « Hey, je vais pas bien ». J'ai pensé au suicide, j'ai eu un flash suicidaire. C'est-tu correct, pas correct? Donc, de ne pas rester seul avec ça, je pense que c'est ça un peu la difficulté. Je pense que les gens qui vont commettre le geste du suicide, souvent, ils vont être isolés, ils vont être seuls au moment du passage à l'acte. Donc, quand je me sens isolé, ben c'est important de demander de l'aide à des proches. Mais le centre de prévention du suicide est ouvert 24 heures sur 24.
Souvent, les gens n'osent pas demander de l'aide aux proches parce qu'ils ont peur de ce jugement-là, probablement. Ça dépend des générations, mais il y a bien des familles où tu as été élevé, puis c'est comme un bateau le derrière pis avance. Là, je veux dire...
Les gars, peut-être encore plus.
Peut-être encore plus, effectivement, ce qu'on dit souvent.
Ce qui est peut-être moins vrai dans notre jeune génération, où ils ont appris à exprimer leurs émotions, à dire que c'est correct de demander de l'aide. Vous avez parlé de certaines vedettes qui ont assumé leurs difficultés, puis assumé qu'ils sont allés chercher de l'aide, puis qui sont devenus des modèles intéressants. Oui, je pense que le travail de notre... Le pan-québécois, on travaille à l'importance de la demande d'aide. Je pense que ça va aller dans le bon sens de diminuer les taux de suicide. En même temps, il y a du travail à faire.
Bien, absolument. Puis je posais la question parce que je vais me prendre un exemple. Je vais me jeter en dessous d'autobus. Moi, je regarde un organisme comme le Centre de prévention du suicide de Québec. Puis si je file pas, mon premier réflexe, c'est pas de vous appeler simplement parce que je me dis « ben je suis pas rendu au suicide, fait que j'ai pas d'affaires dans cette clientèle-là ». Puis je pense que c'est important de dire que vous pouvez le faire parce qu'on est dans une société en ce moment où on manque de psy, on manque de TS. Je veux dire, c'est dur d'avoir accès à quelqu'un qui peut nous suivre en consultation. Fait que si ça peut juste être d'appeler à quelque part de même pour dire « hey là, j'ai plus de repères, là. Je suis comme en crise existentielle. »
Se permettre, là, puis là, pour la personne, se permettre de prendre un pas de recul, de parler avec quelqu'un qui est neutre dans tout ça.
Qui te connaît pas.
C'est un avantage.
Oui, absolument. 25 ans à la même place, premièrement, chapeau, là, je tiens à le dire. Là. T'as fait de la première ligne, évidemment, puis je voulais qu'on en parle un peu de ça, d'exposer les dessous de ce métier-là, de ce travail-là, je vais le dire. C'est quoi faire de la première ligne exactement? C'est vraiment ceux qui répondent carrément aux gens en détresse.
Oui, tout à fait. C'est les intervenants du centre de prévention du suicide, ils savent à quelle heure ils rentrent, mais ils savent pas à quelle heure ils vont sortir. Et surtout, on sait pas... qu'est-ce qu'on va avoir comme contact, hein? Puis les contacts sont très, très variés. Monsieur, madame, tout le monde peuvent nous appeler pour eux-mêmes, mais un proche pourrait nous appeler parce qu'il est inquiet pour son frère,
par
exemple.
On n'en parle pas assez de ça, hein?
Oui. Donc, il y a comme une notion d'accueillir dans un premier temps les gens, oui. de clarifier la situation. Je ne vous cacherai pas qu'on a des outils qui nous permettent d'estimer la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire, dans le fond, qui nous permet de voir si une personne est en danger pour elle-même ou pour autrui, dans le fond. Et avec sa collaboration, on va mettre en place un filet de sécurité, on va mettre en place une alternative, je veux dire à très, très court terme, parce qu'on n'a pas la prétention de sauver la vie des gens, puis on n'a pas la prétention non plus de régler les problèmes, mais de permettre à la personne de prendre un pas de recul.
De ne pas commettre l'irréparable.
De ne pas commettre l'irréparable. Hein? Tu le nommais un peu tantôt. « Hey, chummy, tu es capable de passer à travers ça. » Oui, mais quand je t'ai soufflé, c'est plus difficile. Mm-hmm. Donc, comment on peut aider la personne à reprendre son souffle? Et en intervention, en prévention du suicide, c'est rarement un contact. Mmh. C'est une moyenne de 4-5 contacts par personne où on va faire des échanges, prendre des ententes. Oui, des fois, on va dire à la personne, ben, peut-être qu'on est rendu à aller faire un check-up avec le médecin, rappeler son psychologue.
Vous avez des clients, je vais appeler ça oui. des clients, des patients, vous avez des gens récurrents, dans le fond. C'est pas une affaire d'une fois nécessairement.
Bien, comme je disais, habituellement, la prévention du suicide, c'est quelques contacts, dans le fond. Un premier contact qui peut être un proche qui nous appelle, qui est inquiet pour son frère ou sa sœur. Par la suite, on va vouloir avoir un contact avec cette personne-là. Et selon les situations, on va prendre des ententes à court, moyen, long terme. L'accompagnement ou le suivi est possible téléphonique.
C'est-tu la même personne qui fait le suivi? Puis tu dis un accompagnement, c'est quoi cette...
Comme on est un organisme 24 heures sur 24, les intervenants au centre de prévention du suicide, puis là, je dis comme ça, là, mais on est un intervenant. Donc, on a des outils pour se passer la rondelle d'un corps de travail à l'autre, mais aussi, parce qu'une personne, quand on l'invite à nous rappeler, on a à peu près 5000 clients différents par année.
Wow.
Chaque client différent, ils sont invités à nous rappeler si jamais ça ne va pas. Puis des fois, il y a des crises très, très situationnelles où un seul contact suffit. Et d'autres crises, ça va prendre plusieurs semaines, mois. Mais
si moi,
on
c'est
va
Joseph
inviter les gens
qui
à nous
me
appeler.
Répond, je peux-tu redemander à parler à Joseph si c'est rendu ma personne de confiance?
Malheureusement, c'est difficile parce qu'on est 24 heures sur 24 et Joseph, il ne travaille pas 24 heures
évidemment.
Sur 24.
Faites-vous du texto aussi ou juste du téléphone?
Oui, on fait en fait, deux choses. Le Centre de prévention du suicide offre le 1-866 appel. Dans le fond, on est mandataire. C'est une ligne qui est provinciale. On est mandataire pour la capitale nationale, donc Charlevoix, Portneuf et Québec. C'est seulement téléphonique. On offre un service qui est confidentiel, mais qui n'est pas anonyme. Et on assure un suivi téléphonique. Et les gens pourraient venir nous rencontrer aussi si on atteint la limite du téléphone. Mmh. Pour ce qui est de suicide.ca, dans le fond, l'intervention par clavardage, chat, texto, il y a 3 centres de prévention du suicide au Québec qui sont mandataires. Québec, Montréal et Sorel. Et c'est un service qui est pan-québécois. Donc, on sort de la capitale nationale. Donc, quelqu'un qui clavarderait avec suicide.ca puis qui serait dans la région de Québec tombe pas nécessairement avec un intervenant de Québec. Et il y a une double confidentialité entre les services du centre et suicide.ca.
Ah, c'est bien ça.
Parce que suicide.ca, on est moins dans une ligne d'urgence, dans le sens où on peut pas répondre à tous les gens qui clavardent avec nous. Les gens, s'ils se sentent en danger dans l'immédiat, ils sont invités à appeler le 1-866 ou ils sont invités à appeler les numéros d'urgence. Et c'est 100% anonyme. Ça va faire 5 ans, là, en octobre, qu'on a lancé suicide.ca et ça ne vient pas jouer sur le nombre d'appels entrants. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pense qu'on atteint, on rejoint une certaine clientèle qui ne veulent pas nous appeler, qui ne veulent pas aller au CLSC, qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui vont vouloir...
Qui ont de la misère à parler, probablement.
Qui ont de la difficulté à s'exprimer. Donc, ça va rejoindre une autre clientèle. Puis là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui clavardent puis qui nous appellent aussi, mais ça ne vient pas jouer. On n'a pas moins d'appels parce qu'il y a des gens qui peuvent clavarder.
Vous êtes combien en première ligne, hein?
Pour le 24-7, on est une trentaine d'intervenants, là, dans le fond, qui gèrent les deux 24-7, j'ai envie de dire, parce que le chat texto, c'est pas les mêmes intervenants. Oui, c'est les mêmes intervenants, avec la même base de formation. On va ajouter une autre formation pour le clavardage, parce que le non-verbal à l'écrit, c'est différent. Mais j'ai des intervenants, qui on va les appeler des hybrides, qui vont être dans les deux services.
Puis justement, comment tu deviens l'interlocuteur en première ligne? Les formations, c'est quoi? J'imagine que ça prend des attitudes humaines particulières. Là, demain matin, je ne peux pas juste dire « Hey, allô, centre de prévention du suicide, moi, je viendrai prendre des appels. »
Oui. À une certaine époque, au tout début, le modèle était vraiment bénévole. C'était la notion du bon samaritain en Californie. Donc, il y avait une formation de base. Depuis 2006, on n'a plus de bénévoles au centre de prévention du suicide. Donc, les gens qui peuvent appliquer chez nous, c'est des gens qui ont à la base une formation de base en relation d'aide. Et là, ça me fait dire, habituellement, les gens qui vont en relation d'aide, ils ont déjà une cape qui a poussé dans leur dos. Ouais. C'est déjà des gens qui aident, qui ont une bonne écoute, une empathie peut-être plus développée que la moyenne des gens. Puis par la suite, nous, on va donner une formation, dans le fond, qui est les bonnes pratiques en prévention du suicide. Et à ça, tout dépendant du secteur au CPS où on travaille, on va ajouter une formation spécialisée par rapport au téléphonique et une autre formation pour le clavardage chat-texto.
Moi, mettons que je voudrais pouvoir faire le chat clavardage, je pourrais peut-être justement prendre une formation puis finir par travailler chez vous.
D'aller faire son bac, d'aller
faut
faire sa technique en relation d'aide.
Savoir.
Exact. C'est des professionnels qui sont là. Puis des fois, on a des étudiants qui sont en fin de parcours aussi qu'on va embaucher.
Ah, c'est bien ça. Ouais. Pour les gens, mettons, qui se posent la question, parce que je me la suis souvent posée, là, c'est quoi le parcours à partir du moment où une personne en détresse vous appelle? Juste peut-être nous amener un peu dans votre quotidien les questions qui sont posées. Je sais que vous avez justement des chartes, des outils, comme tu disais. Juste savoir par quoi on passe quand on appelle au Centre de prévention du suicide de Québec.
Bien, dans un premier temps, c'est l'accueil inconditionnel. Hein. Je pense que c'est la partie la plus importante quand une personne nous appelle. Cette personne-là vit au Québec, donc elle a dans sa tête aussi que c'est courageux, c'est lâche, le suicide.
Ouais.
Donc, il y a comme quelque chose où c'est même difficile pour eux d'appeler parce qu'ils se sentent lâches ou ils se sentent pas assez courageux. Donc, on va les accueillir, puis rapidement, on va s'intéresser à leurs préoccupations. Et au centre de prévention du suicide, on n'est pas des traumatologues. Donc, on va essayer de voir la personne ou aider la personne à se voir plus grande que son problème. Donc, de l'accueillir dans comment elle le fait pour pas faire de tentative de suicide, comment elle le fait pour réussir à se garder en vie en ce moment. Puis oui, on va poser la question, est-ce que le fait d'avoir vivre une rupture amoureuse en ce moment vous amène à penser au suicide? Et si c'est une réponse positive, bien, on va creuser un petit peu plus dans le sens où on va vouloir voir, ça prend quelle forme les idées suicidaires? Est-ce que la personne est rendue à planifier son suicide? Est-ce qu'elle est rendue à avoir un échéancier, une date de suicide. Par la suite, hein, on a d'autres critères importants, la consommation, par exemple, qui peut venir jouer sur le contrôle, le niveau de contrôle. On parlait, qu'est-ce qui fait qu'au Québec, la prévention du suicide est si un enjeu important? Bien, l'héritage du suicide aussi, hein, le fait d'avoir fait une tentative de suicide dans ma vie, bien, me rend plus à risque de mourir par suicide dans les mois suivants une première tentative de suicide, par exemple. Donc, on va s'intéresser à l'historique de la personne. Le fait d'être endeuillé par suicide, là, attention, hein, je ne dis pas que les endeuillés par suicide sont plus... vont suicider, mais ils sont plus vulnérables au suicide parce que des fois, le suicide de l'un donne le droit de se suicider. Mmh. Hein, mon grand-père s'est enlevé la vie parce qu'il vivait une difficulté. Pourquoi moi, je pourrais pas
c'est
le faire?
C'est une porte qui s'ouvre tout d'un
coup. C'est une porte qui s'ouvre. Hein? Le suicide existe parce que le mot suicide existe. Hein? Depuis que le monde est monde, on entend parler du suicide. Donc, comment on peut remplacer ce... ce suicide-là par d'autres outils, permettre à la personne à prendre du recul. Et l'intervention dans l'écoute empathique des intervenants, quand on s'intéresse à la partie qui veut mourir d'une personne, bizarrement, la partie qui veut vivre s'exprime aussi. Mmh. Donc, avec nos oreilles bioniques, on va, avec une douce insistance, relever ces choses-là. Quand tu me dis qu'il n'y a personne dans ton entourage, c'est qui ces personnes-là? Mm-hmm. Donc, pour essayer d'identifier des gens avec qui ils seraient plus à l'aise d'en parler...
Y a-t-il des gens qui sont vraiment seuls qui vous appellent?
Oui, mais
en fait... Qui n'ont pas de repères du tout?
Oui, il y a des... Ben, en fait, c'est vraiment un continuum important. Puis en même temps, il y a des gens qui sont seuls qui ne nous appelleront jamais parce qu'ils sont tellement débrouillards. Puis on a des gens qui sont extrêmement bien entourés, mais qui se sentent seuls au monde. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est très, très varié. Puis encore une fois, le travail des intervenants va être de s'intéresser à la personne, mais pas juste dans l'instant présent. On va essayer de devancer le passé ou l'espoir. On parlait de l'espoir tantôt. Souvent, en prévention du suicide, on va dire que l'adresse postale de l'espoir, c'est dans le futur. Hein, souvent, une personne ne remet pas en question son passé. J'ai vécu telle ou telle chose. Remet pas en question son présent. Hein, je vis une rupture amoureuse, une perte d'emploi. Souvent, dans la prévention du suicide, ce qui est remis en question, c'est le futur. Mm. Qu'est-ce qui vaut encore la peine pour que je me rende à demain ou dans 3 ans et tout ça?
Là, on parle de la démarche pour quelqu'un qui est suicidaire ou qui pourrait le devenir. Mais je trouve ça super important qu'on aborde aussi les proches qui peuvent appeler si on s'inquiète pour quelqu'un. Là, la démarche, évidemment, est complètement différente. Est-ce que c'est d'aller chercher le plus d'informations possible à partir de ce proche-là qui appelle?
En fait, je vais le dire comme ça, là, c'est la même intervention. Quand un proche nous appelle, il a tenté plein de choses. Il est lui-même en crise. Peut-être pas en crise suicidaire, mais on va s'intéresser à lui. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que vous appelez au centre de prévention du suicide? Ah, je pense pas que mon frère va se suicider, là, mais... Oui, mais vous appelez au centre de prévention du suicide. Qu'est-ce qui vous inquiète? Donc, on va partir du proche pour voir un peu c'est quoi sa perception de l'événement. On va l'outiller parfois à poser les bonnes questions et surtout à bien accueillir la réponse. Souvent, c'est ça l'enjeu, hein, de demander à son frère « Est-ce que tu penses au suicide? » Je veux pas entendre la réponse. Ouais. Donc, on va travailler comment accueillir la réponse. Puis là, la personne qui est en crise suicidaire, ce qu'elle nous dit, c'est « Je dois changer quelque chose. » Donc, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de tout ça. Donc, on va accompagner le proche. On va lui dire « Vous faites partie de notre équipe. Voici le plan de match. » On vous demande d'aller poser telle ou telle question ou dites à votre proche, écoute, j'ai appelé au centre de prévention du suicide parce que moi, je ne savais pas quoi faire.
Appelez-vous
avec
le proche.
La situation. Dans quel sens?
Ben, moi, mettons, j'appelle parce que je m'inquiète pour Max. Je vous donne le numéro de Max. Appelez-vous Max?
Oui, c'est un service qui peut être offert, la relance téléphonique qu'on va parler.
Ça doit être surprenant, recevoir un appel du centre de prévention.
Ben, probablement. Je pense que ça parle encore plus de nous. Ça fait 25 ans, moi, que je fais des relances téléphoniques et j'ai envie de dire, il y a peut-être 1% que ça a été frappé un mur. Mm. Parce que habituellement, les gens sont agréablement surpris que quelqu'un qui s'inquiétait suffisamment...
Ah, c'est bon à savoir, ça peut enlever une peur. Appeler.
Oui, tout à fait. Puis le fait de parler de suicide, c'est thérapeutique. Mm. J'ai peur de parler, puis quand je parle à quelqu'un, puis je lui dis « Hey, le fait de vivre une rupture amoureuse, est-ce que ça t'amène à penser au suicide? » Souvent, l'effet chez la personne, c'est « Bon, enfin, quelqu'un se rend compte que je ne suis plus capable d'avancer. » Donc, puis dans l'accueil inconditionnel, on diminue les effets de honte, les effets de peur de parler de sa détresse.
Mmh, ouais. Est-ce qu'il y a des cas qui dépassent vos compétences? Vous faites quoi dans ce temps-là?
Bien, en prévention du suicide, une des bonnes pratiques, c'est de ne jamais travailler seul. Hein? C'est pour ça que je disais, quand un proche nous appelle, on lui dit « Vous faites partie de l'équipe ». Quand une personne suicidaire nous appelle, on lui dit « Tu fais partie de l'équipe ». Et on va voir un peu dans la situation de la personne, qui d'autre on ramène dans l'équipe. Est-ce qu'on va chercher un professionnel de la santé, un médecin par exemple, des fois dans le réseau... Là, on parle des hommes, hein, parce que votre clientèle, c'est les hommes, puis je suis à l'aise de parler de la demande d'aide des hommes. Qui dans votre équipe, ça fait longtemps qu'il est sur le banc de touche? Hein, parce qu'il est arrivé un événement, puis vous l'avez mis en pénalité. Mais que, Caroline qui serait aidant en ce moment, y a-t-il des gens dans votre entourage qu'on devrait rappeler? Et s'ils savaient ce que vous vivez en ce moment, comment ils pourraient bien vous aider? Donc, on va élargir. Puis encore une fois, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Puis parfois, en prévention de suicide, la résolution de problèmes ne fonctionne pas. Hein, le meilleur exemple, c'est un endeuillé par suicide qui nous appelle. Si j'appliquais bêtement la résolution de problème, je dois ramener à la vie la personne qui est décédée. C'est humainement impossible. Puis souvent, pour les intervenants, c'est difficile d'intervenir auprès des endeuillés parce qu'on sent une impuissance importante. Donc, au centre de prévention du suicide, la personne qui est endeuillée, qui nous appelle, on va les accompagner dans les émotions contradictoires qu'ils vont vivre.
Oui.
Et, encore une fois, les aider à revoir leurs forces.
Comment vous évitez de ramener ça à la maison, personnellement, là? Les intervenants, les gens qui sont en première ligne? T'sais, en passant, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle avec Éric Arsenault, qui est coordonnateur du secteur clinique là, du Centre de prévention du suicide de Québec. 25 ans! C'est énorme, 25 ans! Là, c'est plus vieux que Max!
Oui.
Comment vous faites pour ne pas ramener ça à la maison? Puis je blaguais pas quand je disais rester sain mentalement. Il va y avoir des journées particulièrement difficiles.
On a un humour particulier au Centre de prévention du suicide. On a un travail d'équipe important. Tous les intervenants sont rattachés à un superviseur. Parce qu'en prévention du suicide, j'ai beau avoir l'ordinateur de l'année, un crayon qui écrit bien. Mon principal outil d'intervention, c'est moi-même. Donc, ils sont rattachés à un superviseur. C'est un travail d'équipe aussi. Donc, pendant les interventions, on va travailler en équipe. Et comme on le disait tantôt, c'est pas toujours Éric qui répond au téléphone. Donc, je vais passer la rondelle au changement de corps pour dire « Monique va nous appeler tantôt. Oui. Voici ce que j'ai fait avec elle. Voici ce qu'elle devrait avoir fait. » Puis, on va repartir de là. Donc, on va travailler en équipe. Donc, quand je repars, je fais confiance à mon équipe. C'est ce qui nous permet, je pense, de perdurer.
Les gens restent-tu longtemps?
C'est relatif. Hein? Je pense qu'on a des intervenants qui viennent, sont de passage, ils terminent leurs études, ils vont aller, viennent se chercher une expertise en prévention de suicide, puis ils vont trouver un autre emploi ailleurs. J'ai des intervenants qui vont fêter 17, 25 ans prochainement aussi. Donc, il y a des vieux intervenants, mais qui ont l'air jeunes. Je pense que c'est relatif. Ce qui est intéressant aussi au Centre de prévention du suicide, mais je peux toucher à d'autres secteurs aussi. Il y a le téléphonique, oui. Mais j'ai un secteur clinique où je vais rencontrer des individus. Et là, ça va être toujours la même personne que je vais rencontrer. Et un secteur de la stratégie numérique aussi, devenir superviseur. Donc, il y a comme une structure, dans le fond, qu'on a réussi à faire dans les dernières années qui permettent de ne pas rester seul avec ça.
En tout cas, je tiens à dire, Éric, parce que ça sort sur les textos, là, que si c'est des gens comme toi qui répondent au téléphone, ta voix, ton calme, c'est franchement apaisant. C'est plate, mais on va parler un peu de chiffres. Ça ressemble à quoi la situation à Québec, dans la capitale nationale en ce moment, quand on parle de gens en détresse qui décident de passer à l'acte?
Bien, je pense que positivement, il y a plus de gens qui nous appellent. À une certaine époque, on avait moins d'appels. Maintenant, on en a plus. Hein, on est plus connus grâce à des radios comme la vôtre. Les gens qui nous appellent, je pense qu'ils nous appellent au début de la crise, ce qui était très, très différent quand j'ai commencé en prévention du suicide. Bon, il y a quand même un enjeu capitale nationale dans beaucoup de professions libérales. Hein, il y a eu dans les dernières années où... un sondage que les gens disaient « Si jamais je perds l'usage de mes jambes, je vais me suicider parce que ma vie est finie. » Donc, il y a comme quelque chose où on a de la difficulté à demander de l'aide. C'est pour ça un peu qu'on vient vous voir pour que vous puissiez parler de nous. Deux suicides hein, par semaine, c'est beaucoup trop.
C'est énorme.
Au Québec, c'est... Puis le taux de suicide, encore une fois, je vais avoir un discours positif. Le taux de suicide diminue. Depuis 1999, où on a eu la pire année provinciale. Les gens demandent de l'aide plus tôt. Et il y a d'autres sources aussi. Hein. On fait de la formation sentinelle. Dans le fond, les sentinelles, c'est en milieu de travail, un peu comme la RCR, sauf que c'est des gens qui ont un bottin de ressources, qui sont capables de poser les bonnes questions. Oh. Et je peux aller voir mon collègue en disant « Je vis une rupture en ce moment, je ne vais pas très bien. » Et là, cette personne-là, sentinelle, va poser les bonnes questions par rapport au suicide.
Éric, je t'arrête deux petites secondes. Tu parles beaucoup de rupture depuis qu'on a commencé à se parler. Non, mais sérieusement...
Je vise les gars, là.
Autant les gars que les filles, tu parles beaucoup de rupture, puis j'en viens à me demander, c'est une des raisons principales, souvent, pour lesquelles les gens tombent dans un trou noir?
Je pense que c'est des fois le déclencheur qu'on voit le plus. Le suicide, c'est vraiment un multifactoriel. Là. Il y a beaucoup de facteurs qui amènent une personne à décéder par suicide. Mm-hmm. Des fois, la rupture amoureuse est souvent la pointe de l'iceberg, dans le fond. Hein. Je vis plein de difficultés, ça joue sur mon couple, et la rupture devient comme un peu un déclencheur, mais... il y avait un terreau fertile au suicide. Puis effectivement, je pense que des fois, les hommes ont de la difficulté à demander de l'aide quand ils vivent cette rupture amoureuse.
Avant de vous de rappeler aux auditeurs les façons de vous contacter, est-ce que des gens qui écoutent présentement qui se disent hey, « Moi, je veux aider cette cause-là de la prévention du suicide », c'est quoi les façons?
Bien, sur notre site Internet, dans le fond, la Fondation ramasse des dons aussi. Hein. Comme je vous disais, on est financé pour le 866 appel, dans le fond, téléphonique 24/7, mais on a plein d'autres projets également là, qui permettent de faire de la prévention du suicide. Donc, les gens peuvent donner généreusement. En ce moment, la cage au sport, la cage brasserie sportive, dans le fond, ramasse des fonds pour nous. Donc, du 1er septembre au 14 septembre, ils vendent de la pizza. Donc, quand vous allez encourager vos équipes sportives, bien, prenez de la pizza. Puis, il y a des sous qui sont rattachés au centre de prévention du suicide. On n'a pas... En fait, je pense qu'il y a plein de façons de s'impliquer en prévention du suicide. Donc, venez visiter notre site Internet.
Éric Arsenault, je veux te remercier d'être passé. C'est jamais des journées qui sont le fun, c'est jamais des sujets qui sont faciles non plus à aborder, puis d'avoir des intervenants qui sont prêts à faire le pas, puis qui sont prêts à venir se mouiller puis faire le tour du sujet avec nous. Je tiens à te remercier, puis en passant, il y a des textos qui entrent pour vous remercier. Vous avez été d'une grande aide. Honnêtement, je vous lis les auditeurs, j'ai le cœur qui brise en huit. Là, je me rends compte à quel point on sait pas, puis on réalise pas autour de nous à quel point...
On en parle pas assez.
Ah, à quel point il y a des gens qui... Puis j'ai envie de vous dire, je vais le prendre de l'autre sens. Oui, si vous n'allez pas bien, demandez de l'aide, mais je pense que c'est plus difficile de demander de l'aide quand tu ne vas pas bien que de prendre des nouvelles quand tu vas bien. Pensez donc à quelqu'un aujourd'hui de qui vous n'avez pas pris des nouvelles depuis super longtemps. Je ne vous demande pas de faire une thèse psychologique. Là. Hey, salut, ça va? Je prends tes nouvelles.
Mais la nuance, hein? Posez la question différemment ou quand vous dites à quelqu'un « Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? » Prenez le temps d'écouter la réponse.
Ouais.
Hein? Parce qu'une personne nous dirait « Non, je vais mal. » Je n'aurais pas entendu parce que je m'attends à avoir un « Oui, tout va bien. »
Ben oui.
Hein?
Ben oui,
donc, prenez le temps d'écouter la réponse.
Donc, Éric Arsenault, coordonnateur du secteur clinique au Centre de prévention du suicide de Québec. Il y a le 1-866 appel, évidemment, votre numéro qui est sur Google. Et il y a le 988 aussi maintenant, ligne d'aide en cas de crise de suicide. Je pense qu'on est en soi plus que le Centre de prévention du suicide.
Peut-être un petit bémol avec le 988.
Oui,
c'est la ligne pan-canadienne.
Oui.
Et au Québec, c'est transféré au 1-866 appel. Et il y a un gros enjeu technologique avec le 988. Donc,
bon
le 1-866 appel est peut-être plus pertinent au Québec.
Gardons ça. Alors, 1-866 appel. Merci énormément d'avoir pris le temps. Puis, on va prendre le temps d'aller vous lire beaucoup de témoignages qui rentrent par texto.
Merci, Éric. Merci, Audrey. Au retour, Pascal CV s'en vient dans le Point de Max. Il est 11h38. Le Point de Max. 11h44 minutes dans le Point de Max. Le camp vous invite le 14 septembre, c'est dans quelques jours à peine, à vivre un grand rendez-vous de solidarité. C'est au Grand Marché de Québec que ça se passe avec une version unique et festive du fameux défi tête rasée Le camp. C'est présenté par Proxime au programme. Ben, les fameux rasages en direct, animation familiale, témoignages touchants, ambiance où toute la communauté se rassemble pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Boulevard 102 qui vous donne rendez-vous pour célébrer le courage, l'espoir des familles de Le Camp. Ensemble, on montre à ces familles-là qu'elles ne sont pas seules. L'inscription qui est gratuite au www.têterasée.com, tête rasée au pluriel. On se mobilise pour la cause lors du défi au cœur du village Le Camp au Grand Marché de Québec, dimanche 14 septembre, dès 11h. Dans l'actualité aujourd'hui, le fameux remaniement ministériel de François Legault. retient beaucoup l'attention, pour ne pas dire retient pas mal toute l'attention. Et Pascal CV vient d'entrer en studio. Pascal m'a dit « Max, aujourd'hui, on va dire au monde ce qu'ils n'ont peut-être pas entendu parce que tout le monde parle juste du remaniement. » Salut Pascal!
Salut Max! Ouais, il manque beaucoup d'angles morts. Hein. Les gens ne les font pas sur la route. Ben, on ne le fait pas en nouvelles en ce moment parce que tout attire notre attention vers le remaniement ministériel du gouvernement de la CAQ. Mais il y a des choses quand même importantes et ou loufoques qui nous passent sous le nez puis qu'on n'a pas vraiment le temps de déguster. On va commencer avec une nouvelle que j'aimerais mieux juste évacuer que déguster. Puis c'est celle sur Donald Trump, en fait, au courant des dernières heures. On a révélé une lettre, la fameuse lettre. T'sais, on s'attendait à avoir un genre de carton de nom avec lequel Jeffrey Epstein, le milliardaire qu'on avait connu, qui était en cours, qui s'est finalement enlevé la vie aussi en prison. Ben, on voulait la liste hein, des gens qui avaient fréquenté Epstein et qui avaient probablement eu de genre de relations étranges avec des jeunes femmes. Tout est dans le spéculatif, là.
Ouais.
Mais cette fameuse lettre-là, Donald Trump nie son existence depuis tellement longtemps.
Parce qu'on a toujours su qu'il y avait eu un certain lien à un moment donné quelque part entre Trump et Epstein.
C'était difficile à nier avec toutes les photos qui étaient prises, entre autres avec leurs conjointes respectives, avec des vols sur l'île, avec, bon, plein de choses. Mais jamais on pouvait faire de corrélation entre une réelle amitié ou un contact très, très précis entre Epstein et Donald Trump. Là, on a décidé du côté des démocrates de rendre public officiellement dans le Wall Street Journal hier un genre de carte de fête, lettre de fête, cahier de fête qui a été, selon ce qu'on comprend, rédigé en 2003. Et bon, ça revient à faire en sorte qu'on pense qu'il y a vraiment une étroite amitié qu'il y avait entre Trump et Epstein. Pour la première fois, cette lettre-là a été rendue publique. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions à ça, surtout Donald Trump qui réagit. Et lui nie. C'est pas sa signature.
Parce que c'est ça, c'est signé. Cette lettre-là est signée, puis la signature, ben ça ressemble drôlement à la signature de Donald Trump.
Lui, il dit c'est pas sa signature, c'est pas ses mots, c'est pas sa façon de parler, et qu'il était en aucun cas l'auteur de la lettre d'anniversaire, un peu à la tonalité salace, là, qui était adressée au délinquant sexuel que l'on connaît, Jeffrey Epstein. Donc lui, c'est non, il n'y a rien à se reprocher, il n'y a rien à faire avec ça. L'affaire, c'est que dans ce cahier-là, où il y a aussi d'autres personnalités publiques, Bill Clinton, qui a un genre de lettre écrite dans le cahier d'anniversaire, que c'est particulier, il y a des photos qui sont particulières, il y a des lettres adressées aussi à d'autres personnes, comme quoi on voudrait amener des mineurs. C'est vraiment gorgé de choses répréhensibles, intrigantes et absolument percutantes si jamais ça s'avère réel. Mais en ce moment, on pense que c'est réel, mais on ne peut pas l'affirmer hors de tout doute.
À suivre. Aussi dans l'actualité, Pascal, tu nous parles d'une activité bien populaire chez les jeunes vilains.
Les jeunes vilains. Oh, tout le monde a essayé un son des crises ici et là dans sa vie.
Je me suis fait pogner. C'était par les parents d'une amie. Je m'en suis jamais remis.
T'as été stressé pour le reste des jours.
J'ai jamais fait ça.
Mais ben là, cet ancien dans l'actualité, on le voit beaucoup sur les groupes Spotted. Là, des gens qui disent hey, là, on fait des sons des crises chez nous. J'aime pas ça. Ça m'inquiète. Il y en a qui vont aller mettre le visage des fautifs sur les pages
des
Facebook.
Vilains.
En Allemagne, par contre, ça prend un petit peu une tournure particulière parce qu'il y en a qui croyaient être victimes de mauvais coups de genre Sunday Chris. Et ils ont fait une réelle instigation là-dessus. On s'est rendu compte que l'origine du vacarme, c'était causé par l'activation de la sonnette de leur immeuble par des limaces.
Pardon?
Des limaces.
Des limaces.
Qui grimpaient jusqu'à la sonnette. Puis on a contacté les autorités pour dire ça fait pas de sens, ça arrête pas de retentir, il y a des adolescents probablement qui sont responsables de nous faire peur. Ça s'est rendu jusque dans The Guardian. Puis finalement, c'était des limaces.
Particulier.
On aura tout vu.
Tu nous parles aussi de noms qui font réagir.
Oui, là, ça va peut-être nous concerner dans quelques mois, une fois que le tramway va être en place. On va peut-être voir des stations de tramway prendre le jour. Et comment on va les appeler, ces stations-là? Ils vont peut-être avoir des noms thématiques comme du côté du monde à l'international, ou encore on va ramener ça comme à Montréal avec des genres de points historiques ou à quel coin de rue elle est située, cette station de métro-là.
Ça fait réagir, là, les noms à Montréal.
Mais là, ça devient une polémique. Quand on dit qu'on encule des mouches,
non,
c'est encore le cas.
C'est pas de l'enculage de mouches.
Parfait. À vous de voir, 88-971-101, si c'en est. Mais là, ça fait vraiment réagir. Les nouvelles stations de la ligne bleue du métro de Montréal, puis c'est pourquoi je le ramène un peu face à nous, là, parce qu'on va peut-être le vivre ici à Québec dans pas long. Mais les 5 futures stations de la ligne bleue ont maintenant un nom attribué, puis ça a souligné la contribution déterminante de plusieurs choses, dont de femmes d'exception. Les voici. Donc, station Vertière, station Mary 2X Early, station Cécira Paris-Auto, station Madeleine-Parent, station Anjou. Un peu plus normal, ouais. La dernière. Mais c'est un exercice assez délicat, là. Je veux dire, c'est plusieurs orientations, plusieurs contraintes. Ça a été sélectionné. Il y a eu un processus complexe, rigoureux. Hey, il y a des gens qui étaient payés pour travailler là-dessus pendant longtemps, là.
C'est qu'on voit l'idéologie un peu, puis que ça va tout dans le même sens, puis c'est très à gauche, puis c'est très... Tu sais, c'est quelle qui... C'est comme une affaire de guerre en Haïti. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Puis c'est correct ce qui s'est passé ailleurs, puis on a des grosses pensées pour ce monde-là. Mais là, c'est un métro à Montréal. Je pense qu'au Québec, on a eu assez de monde marquant, puis assez d'événements marquants pour pas aller chercher le nom de notre station de métro pour une guerre en Haïti.
On
là.
A l'impression qu'on voulait être inclusif, en fait, dans les noms. Parce
très.
Que, puis encore là, de saluer les communautés qui bâtissent Montréal en ce moment. Mais on dit, première station, effectivement, c'est sur la bataille de Vertières. Elle, ben, ça conduit à l'indépendance de l'Haïti en 1803. On est retourné loin dans l'histoire, mais c'est on ça. Est allé chercher ça. La station Mary 2 X Early, ça, c'est celle qui a été nommée en l'honneur de la femme Mohawk de Kanawaki qui a milité sur les droits des femmes autochtones. Ensuite, Cécira Parisotto, ça, c'est une figure marquante de la communauté italienne au Québec, puis elle a été, en fait, la fondation d'école de l'hôpital Marie-Clarac. Pas grand monde qui savait c'était quoi. Maintenant, vous êtes au courant. Puis peut-être que je pourrais ressouligner là, la station Madeleine Parent. Ça, c'est le nom de la syndicaliste et pionnière du mouvement féministe au Québec. Pour finir avec la station d'Anjou, là, pour le nom de l'arrondissement d'Anjou.
Ça, c'est correct.
Peut-être
yes, sir.
Les gens qui étaient employés avaient fini leur mandat, on n'avait plus de temps à leur donner, on n'avait plus de salaire pour eux. Fait qu'on s'est dit, ben, ça va être Anjou.
Et en terminant, Pascal, Félix Auger-Aliassime, dont on a été bien fiers dans les derniers jours grâce à ses performances au tennis, qui devient viral.
Ouais, il devient viral. Il a fait un TikTok, ça me fait bien rire, parce que ça, là, je pense que c'est l'épine dans le pied de bien du monde qui vont parler de sport. Comment on prononce les noms des sportifs?
Oui.
Puis Félix Auger-Aliassime, on s'entend qu'il a fait parler de lui dans les dernières semaines,
oui.
Mais c'est pas tout le monde qui est capable de prononcer son nom de ce
J'avoue,
gars de Québec-là.
Hein?
Il a rectifié le tir.
So I see there's been a bit of chatter about how to pronounce my last name. Nothing new here. There's a story of my life. And trust me, I've heard it all. Auger Aliassime, Auger Aliassime, Auger Aliassime, Auger Aliassime, Auger Aliassime. So the proper way to say it is Auger Aliassime.
Alors, bonne chance.
Ben pour vrai, pour des anglos, je peux comprendre.
Très difficile.
Ouais.
Très, très difficile. Mais moi, ce qui me paraît, c'est
Auger Aliassime.
C'est aussi facile que ça, Auger Aliassime. Alors, bonne chance à tous.
Merci beaucoup, Pascal. On t'écoute dans les prochaines minutes. Dans On en jase le midi avec Jeff Fortin et Antonine Iacarini. Dis-je très mal. Faudrait peut-être qu'elle fasse une vidéo pour me reprendre.
Ou encore un genre de station de tramway à venir.
Puis nous, ben, on se retrouve demain dès 6h pour Marceau le matin et dès 10h pour Le Point de Max. Fait que salut, ciao, bye. Puis écoutez toute la journée, là, l'équipe du retour va être là pour parler de remaniement puis tout. Bye!